Les entretiens Hypnocafé.
Une session proposée par Charles Jousselin, médecin et philosophe.
Bonjour Christian Martins. Tu nous reçois dans ton cabinet. Tu me reçois dans ton cabinet, rue de Dunkerque, à Paris, dans le 10e. Voilà. Et. Ben, je vais simplement te demander, moi, quand je pense à Christian Martin, je pense à hypnose, parce que tu es allergologue, hypnose et allergologie, et l'autre chose, c'est que tu as fait beaucoup de philosophie, notamment, et tu es très, je crois, très fin sur la phénoménologie. Mais dis-nous d'abord quelques mots sur toi, si tu veux bien.
Donc, je suis médecin. Depuis 40 ans quoi, maintenant, et j'ai été formé à l'allergologie tout près au départ en tant qu'externe en médecine à l'hôpital Fernand Vidal,
oui, juste
où
à côté.
Il m'arrivait régulièrement de rencontrer et de croiser Léon Chertok.
Très bien,
donc,
d'accord, c'est vrai.
Très rapidement, je me suis intéressé à l'hypnose, telle que Léon Chertok l'a pratiquée à l'époque. Et donc, je me suis formé en parallèle, en allergologie et en hypnose classique, puisque j'ai été formé au départ par Léon Chertok. À l'origine de mes études. Donc, j'ai baigné dans l'hypnose
depuis
mon plus jeune âge.
Ce qu'on appelait l'hypnose semi-directive ou semi...
Oui, on l'appelait hypnose. C'était en plus une hypnose qui était issue, je dirais, de Russie, hein, puisque
oui,
à l'époque, les grandes études étaient effectivement réalisées en URSS. À l'époque, c'était l'URSS. Mais Léon Chertok s'est aussi intéressé aux échelles de Stanford et avait comme assistant donc un docteur en psychologie dont le nom va me revenir là, qui vient de décéder récemment.
D'accord. Didier Michaud.
Et donc, lors de ces formations, à cette occasion, donc, j'ai rencontré Léon Chertok et Didier Michaud lors de ces formations. Voilà. Très rapidement, je me suis interrogé sur un sujet qui était pesant à l'époque et qui confrontait de différentes équipes, les Ericksoniens de l'époque, qui se voulaient être une hypnose non directive, très ouverte, qui s'opposait à cette hypnose que je venais d'être formé, l'hypnose traditionnelle, classique. Et très rapidement, je me suis interrogé sur ces questions de directivité et de ces notions d'éthique en médecine, de la question du sujet. du sujet qui subissait l'hypnose en quelque sorte. Et mon mémoire, j'avais rédigé un mémoire à l'époque, c'était sur la non-directivité, de savoir si l'hypnose ericksonienne était plus non-directive que celle qui est la traditionnelle. Quoi. Donc, qui s'opposait à l'époque deux grands courants, un courant classique directif et un courant ericksonien non-directif. Donc, ça a été d'emblée une de mes questions initiales, ça a été sur la dimension éthique de l'hypnose. Pour en arriver à une réflexion qui, pour moi, ne distinguait pas trop si, comment dire, trop, de façon trop nette, l'hypnose traditionnelle suggestive directive et la ericksonienne non suggestive non directive. Et je pensais qu'effectivement les choses étaient beaucoup plus complexes et je me suis penché effectivement sur ce sujet.
Tu as raison. Oui.
Voilà. Et donc à cette occasion, je me suis formé à l'hypnose ericksonienne avec Jean Godin. À l'époque où on s'est rencontrés.
C'est là où on s'est rencontrés avec Jean Godin, oui.
Avec Jean Godin. Et j'ai donc poursuivi ma formation sur l'hypnose. Et je l'ai intégré d'une part à ma pratique de l'allergologie. Et j'ai continué de poursuivre ma réflexion sur la dimension éthique de la suggestibilité, de la suggestion et de l'hypnose, en me questionnant sur ces questions de est-ce que l'hypnose c'est que de la suggestion, est-ce que l'hypnose c'est la... Bon. Comment situer et définir l'hypnose par rapport à toutes les autres notions que sont la suggestion et le rapport. Donc là, ma réflexion donc, s'est poursuivie sur la dimension éthique de l'hypnose et donc sur ce que qui me semblait être une notion importante, la notion de rapport. Voilà.
De rapport, c'est-à-dire ?
C'est le rapport au monde.
Le rapport au monde,
le rapport aux autres.
Très bien.
Je pense que l'hypnose a quelque chose à voir avec cette notion de rapport, hein, de rapport aux choses, de rapport au monde, et que l'hypnose permet une modification de ce rapport. Comme l'allergie est aussi un problème de rapport au monde. Mon corps entre en conflit avec son environnement. C'est pour moi la notion maîtresse que je retiendrai de toute ma pratique en allergologie d'une part et en hypnose d'autre part. C'est ce lien qu'il peut y avoir dans des perturbations, des modifications du rapport au monde. Donc en allergie, on est toujours allergique à quelque chose, donc on est toujours dans un rapport de confrontation. Enfin, on est dans un rapport de confrontation. La personne est dans ce rapport de confrontation, mais c'est essentiellement son corps qui est dans un rapport de confrontation.
L'allergie est une confrontation à quelque chose.
Oui. C'est mon alarme. Ça sera...
Oui, ça n'a aucune importance,
Tu coupes,
Non, on continue, voilà. On est tous coincés par notre téléphone.
En tout cas, c'est une alarme qui est tout à fait... et que je n'arrive pas à éteindre.
Alors on reprend. Effectivement, tu disais quelque chose de très intéressant. Tu disais que l'allergie, c'est une confrontation à quelque chose. Et tu disais en même temps, c'est une modification de son rapport au monde.
Voilà, c'est une modification du rapport au monde de la personne par son corps, à son environnement, mais aussi à sa vie, à son rapport avec les autres, et dans ses différents rapports. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que c'est aussi, y a aussi quelque chose comme une modification du rapport. En hypnose, ce que j'ai retenu de la pratique de l'hypnose, c'est qu'en hypnose, il y a toujours cette bascule d'un moment ou d'une relation de sujet à objet, une relation à l'autre de nature objective, hein, de sujet à objet. Lorsqu'on fixe son attention sur une chose et qu'il y a un moment où la conscience décroche, qu'elle perd l'appréhension sur le monde, la personne se retrouve en quelque sorte témoin, non plus dans un rapport de prise sur le monde, donc de, je dirais certaines aussi de confrontation, d'un rapport au monde, d'un rapport au monde où la personne se trouve face au monde, elle se retrouve témoin du monde, de processus qui sont, je dirais, autonomes.
Et tu parles de témoin des processus de changement, alors.
Des processus de changement, et puis où la personne se retrouve témoin de sa vie dans le monde.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'est plus dans un rapport, dans son rapport au monde, il n'est plus dans un rapport de objectif d'être face au monde, mais dans un rapport où il est dans le monde, où il est absorbé dans le monde.
Par
des processus, d'une part, et puis dans sa relation avec l'autre, d'autre part.
D'accord.
Et donc, ce qui m'a semblé intéressant dans la pratique de l'hypnose en allergologie, c'était justement de permettre à la personne qui se trouve confrontée au monde à pouvoir, en quelque sorte, réintégrer le monde.
Un peu différemment, alors, ou réintégrer le monde.
Oui, c'est-à-dire réintégrer le monde, effectivement, différemment, oui. C'est-à-dire que dans les exercices que je pratique avec les patients, quand je leur fais revivre des événements traumatiques de leur relation au monde à cause de l'allergie, ce qu'on réalise ensemble, si vous voulez, c'est pas une reviviscence, dans le sens où on revit quelque chose à l'identique, mais on le revit dans un nouveau rapport au monde. On a un nouveau rapport au monde plus sécur, entre autres, hein, puisqu'on met en place des lieux de sécurité, une relation sécure avec le patient. Et donc dans ces exercices où le patient se retrouve, la personne allergique se trouve effectivement dans une certaine frayeur face au monde dans sa relation avec l'allergène, permettre quand même qu'elle puisse rencontrer l'allergène d'une façon différente, même si, bien sûr, il y a toute la dimension médicale qui entre en jeu, puisqu'il est important dans certaines situations de prendre le maximum de précautions vis-à-vis de l'allergène, de prendre ses distances vis-à-vis de l'allergène, mais que si effectivement, d'une façon ou d'une autre, on se retrouve confronté avec un allergène qui est particulièrement sévère, voire létal, qu'il puisse y avoir une prison, enfin, que le patient puisse se prendre en charge correctement, quoi. Réaliser son adrénaline et autres, et pouvoir réaliser comme ça une éducation thérapeutique favorable, quoi.
D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans ton boulot d'allergologue tout à fait classique, tu as associé la pratique de l'hypnose et avec des résultats, j'imagine, étonnants, difficiles.
Oui, alors...
quelle est ton impression ?
Alors moi, déjà, tu me parlais de mon approche phénoménologique de l'hypnose. En fait, le plus souvent, sauf à la demande du patient, le plus souvent, je réalise non pas une hypnose, je ne réalise pas une hypnose sur une personne, mais je réalise une auto-hypnose pour être plus à même, effectivement, d'être dans une écoute du patient et de l'accompagner. C'est avant tout, d'abord et avant tout, il s'agit d'une auto-hypnose.
De l'accompagnement d'une personne
En tant qu'accompagnant du patient.
En auto-hypnose.
En auto-hypnose. Mais bon.
Oui.
Oui. C'est-à-dire que, en pratique, Avant tout interrogatoire, avant tout rapport médical, je m'interdis pendant au moins 5 à 10 minutes d'interrompre le patient. Je me laisse absorber par
très
son
bien,
histoire.
Très bien, très bien.
Je me laisse absorber par son histoire.
Ça, c'est très intéressant.
Et dans un premier temps, donc, sans a priori, sans contrainte quelle qu'elle soit.
Alors ça, c'est le phénoménologue.
Et ça, c'est le phénoménologue, qui réalise une auto-hypnose à partir donc de l'histoire de son patient. Donc je m'interdis d'interrompre le patient, je me laisse effectivement absorber par l'histoire du patient pour cerner où effectivement, au-delà de la dimension allergologique où on s'intéresse à l'allergène et de façon objective, là je m'intéresse à la personne dans son vécu d'allergique et dans ses difficultés d'allergique. Et donc, je m'interdis tout a priori, je suis dans l'écoute. Et,
oui.
Et dans un deuxième temps, je m'arrête, je me pose, et dans un deuxième temps, je me pose pour m'interroger sur mon propre ressenti de son histoire.
D'accord, très intéressant, oui.
Et en parallèle, je demande à mon patient d'en faire de même.
D'accord.
Et dans un troisième temps, de partager sur ses ressentis. C'est comme ça que je pratique l'hypnose au quotidien avec mes patients.
Donc en fait, toi, tu te laisses absorber par son histoire. Tu es vraiment le phénoménologue qui se met en suspens, qui essaye d'être sans a priori, qui accueille. Mmh. Ensuite, tu t'interroges et tu interroges le patient. Et vous vous interrogez mutuellement. Vous partagez une interrogation.
On partage.
Ça, c'est très intéressant.
Nos propres ressentis.
Et ensuite, éventuellement.
Et ensuite, éventuellement, on peut faire un travail plus formel et effectivement mettre en place des outils comme un travail sur le lieu sûr, mettre en place un lieu sûr.
D'accord.
Puis effectivement, après, je peux être amené à proposer aux patients dans une hypnose plus formelle à revivre, entre guillemets, des épisodes précis, si tu veux, de son histoire, dans lesquels il a vécu des moments traumatiques de son histoire pour, effectivement...
Alors, le BO5, je suis. Le patient te suit tout à fait. Enfin, je veux dire, quand tu... Alors, j'imagine que ce premier accueil est tellement rare que ça doit leur faire beaucoup de bien.
Mm-hmm.
Ensuite, cette interrogation, ça, c'est aussi quelque chose qui doit être un peu étonnant, et pour toi et pour lui. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Et alors ensuite, le fait de faire un lien, éventuellement, entre son histoire et ce que tu en as entendu, et l'allergie, est-ce que les patients... ils sont étonnés, ils n'ont pas de soucis, ils se rendent bien compte. Je ne sais pas quel est leur rapport. Parce que si j'ai l'impression que j'ai une allergie, je ne sais pas quoi, au pollen de graminée, est-ce qu'il y a une histoire derrière mon allergie, une histoire personnelle derrière cette allergie aux graminées ? Du 15 mai au 15 juillet, c'est la seule chose dont je me suis souvenu. Je dis ça comme ça. La question, c'est-à-dire que, après ces deux moments très forts, de cette, j'accueille, nous nous interrogeons ensemble, est-ce que tu soulignes simplement qu'il y a peut-être eu un traumatisme, et faire le lien entre ce traumatisme, quel qu'il soit, et l'allergie, est-ce que ça pose... Enfin, moi, est-ce que le patient adhère facilement ? C'est compliqué ?
Effectivement, c'est le fond du sujet. C'est que je ne pratique en fait, je ne poursuis ce travail en hypnose que lorsqu'effectivement il y a une souffrance au sens large.
Oui.
Hein? Bon nombre de mes patients qui viennent en quelque sorte en touriste, simplement pour savoir, pour avoir un traitement classique.
Donnez-moi un traitement, docteur.
Voilà, donnez-moi un traitement. Il n'y a pas de raison que je vais pas au-delà de la demande du patient.
D'accord.
Par contre, si j'ai des patients qui qui développent des crises d'asthme sévères.
Alors voilà, c'est dans des situations un peu particulières.
Ou des allergies alimentaires avec des anaphylaxies importantes, ou des angioèdèmes, ou des étouffes, où il y a une sensation de mourir, où il y a une appréhension de certains, contextes dans le temps, dans l'espace, ou lors d'activités particulières. C'est surtout dans ces contextes-là qu'on peut prolonger effectivement le travail.
Voilà, d'accord. Hein? D'accord.
Mais si d'emblée, j'ai pu constater que si d'emblée, je me limite à un premier niveau d'interrogatoire, où je demande quel est votre problème, et qu'ils me disent « oui, bon, bah, j'ai manqué mourir en mangeant une cacahuète et tout », on sent bien qu'il n'y a pas d'émotion derrière, il n'y a pas de vie. Le patient ne vous offre pas de vécu.
D'accord.
Il ne vous offre pas de vécu, il n'y a pas de prise. De prise sur laquelle, hypnotique ou autre, ou même médicale, sur laquelle on puisse réellement agir. On reste purement informatif. C'est-à-dire que je fais mes tests et tout, je dis, bon, bah, vous êtes allergique à telle et telle chose, bon, bah, il faut éviter le contact avec telle et telle chose. Selon certains critères, on peut dire que les risques sont plus ou moins graves, plus ou moins sévères. Quand les risques sont légers, mais que la personne a une appréhension importante, le fait de lui dire, ça ne suffit pas suffisamment. Donc, dans ces cas-là, il y aurait eu un travail à faire. Si je l'appréhende que dans un deuxième temps, c'est souvent trop tard, quoi. C'est difficile de rétablir une relation thérapeutique où on intègre, je dirais, le vécu, toute la dimension psychoaffective, émotionnelle et autres.
Donc, tout l'intérêt de cette première
instance. Tout l'intérêt de l'écoute. Du fait que le patient perçoive bien qu'on s'intéresse à son vécu. Ouais. Et pas qu'au job, pas qu'à l'allergie. Allergie prise dans un sens, je dirais, objectif. C'est-à-dire, il s'agit de telle et telle chose, vous avez sur une échelle de 1 à 5, vous avez un risque de 5 de développer une réaction sévère, ou un risque de 1 de ne pas développer de réaction sévère, etc. etc. La prise en charge reste purement distante.
D'accord.
Et il ne se passe pas grand-chose, ça n'aide pas en tout cas. Ce qui aide le patient allergique, c'est que son affection soit grave ou pas, c'est la façon dont il la perçoit.
Très bien.
Et sur laquelle on peut travailler. Mais il peut s'agir d'un patient qui a une affection sévère aussi, ouais, mais qui n'en a pas la perception.
Tout à fait.
Et pour lequel il faut effectivement faire un travail. Là, pas forcément de déclencher des angoisses, mais qui est quand même une appréhension de la gravité potentielle de son état. Quoi.
D'accord.
Et donc ça, il faut le toucher du doigt au départ, quoi, je pense. Donc d'où l'intérêt de ce premier niveau de prise en charge.
D'accord, très bien. Bah écoute, moi je trouve que c'est déjà très intéressant de dire tout ça, parce que ce que je trouve de très 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 étonnant et très original, enfin, c'est cette façon dont tu accueilles le patient, dont tu te nourris d'abord, puis cette interrogation mutuelle. Alors tout ce temps là, c'est quand même, et après donc se développe, tu utilises l'hypnose donc plutôt ericksonienne. Voilà, mais enfin d'accord, très bien. Alors, bon, moi je trouve ça très très intéressant. Une dernière petite chose, puisque tu aimes, connais bien la phénoménologie, on avait d'ailleurs fait un petit travail un petit peu ensemble. Qu'est-ce que tu dirais, parce que les uns te diront que l'hypnose c'est une modification de l'état de conscience, un état modifié de conscience. Toi, si tu te mets. Comme tu le fais, là, tu observes. Alors, si tu te mets en tant qu'observateur d'une séance d'hypnose, de deux personnes dont l'une accompagne l'autre, faisons simple, hein, en auto-hypnose, comme tu le pratiques, qu'est-ce que toi, en tant que phénoménologue, qu'est-ce que tu perçois, ou est-ce que tu dirais deux, trois mots de cette rencontre, l'observation de cette rencontre de deux personnes, est-ce que tu... Juste quelques mots.
Moi, je pense... ce que j'observe,
voilà.
C'est
les phénomènes qui
le
qui
phénomène qui émerge, c'est que qu'en tant qu'hypnothérapeute ou en tant que praticien qui pratique l'auto-hypnose, dans ces cas de figure, je perçois un changement de ma façon d'appréhender le monde.
Oui, je reviens là-dessus. Ouais, ça, c'est très intéressant.
D'appréhender le monde. C'est-à-dire que j'appréhende plus le monde avec en le catégorisant de l'extérieur.
D'accord.
Je ne perçois plus le monde. Je ne perçois plus Charles avec sa coiffure, avec son nez, ses yeux, tout ça, et avec un certain nombre de critères objectifs que je peux définir parce que j'ai une prise, je dirais, une prise objective sur d'un sujet, moi-même, sur un objet qui est autre, qui est l'autre, mais un changement de cette structure, de ce rapport au monde avec l'autre, qui fait que, en fait, je suis dans la relation. Je ne regarde plus tes yeux, mais on est dans un regard commun. Et là, il y a en hypnose, il y a effectivement une circulation.
Ouais.
Et là, je te perçois plus. Je ne te perçois plus. On vit la relation ensemble.
D'accord.
Hein, on est ensemble. Dans une prise de main où je prends la main que je serre, c'est différent qu'une prise de main où je suis dans l'accueil de l'autre, où je suis avec l'autre. Donc on passe à une relation plus... j'aime bien ce terme de témoignage, où on est témoin de quelque chose qui se passe ensemble, d'une relation.
D'accord.
Ouais. Et là, on est dans la relation, dans l'avec. Alors, c'est vrai que c'est un peu galvaudé, cette notion d'avec.
Oui, mais... Oui.
Mais voilà.
Dans ton discours, sans doute pas, parce qu'en plus, toi qui connais bien la phénoménologie, l'intersubjectivité, on est vraiment là-dedans. C'est
on
une
est
autre
vraiment
façon,
là-dedans.
Vraiment une façon de parler.
Voilà.
Écoute, un grand merci, Christian. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et en tout cas, un grand merci pour ce regard tout à fait passionnant et sans doute à bientôt.